Merci d'écouter RFI. Midi, en temps universel, il est 13h ici à Paris. C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hydrac.
Bonjour. Les opérations anti-migrants lancées aux États-Unis ces dernières heures. Plusieurs centaines de clandestins ont été expulsés à bord d'avions de l'armée. D'autres qualifiés de criminels ont été arrêtés. Promesse de campagne du président Trump. Des méthodes de guerre utilisées par Israël en Cisjordanie, selon l'ONU, l'État hébreu qui mène l'opération baptisée Mur de Fer. Le territoire occupé est bouclé. Des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de Jenin. Le soulagement pour les proches de Serge Atlaoui, ce Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Après 19 ans de prison, il devrait être rapatrié en France. Début février, un accord a été signé entre Paris et Jakarta.
RFI.
À suivre aussi, tollé en France après le refus d'eurodéputés de la France insoumise de voter un texte demandant la libération de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien incarcéré en Algérie. Bangkok qui suffoque en Thaïlande face au pic de pollution. Les autorités ont fermé 350 écoles. Et puis Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, favori pour les Oscars, mais bien parti pour faire un bide au Mexique, le pays qui l'a inspiré.
Promesse tenue, écrit la porte-parole de la Maison-Blanche. L'administration américaine a donc lancé son opération d'expulsion massive de migrants.
Avec des descentes de police dans plusieurs villes du pays, plusieurs centaines de clandestins ont donc été expulsés. 538 étrangers considérés comme des criminels ont également été arrêtés. Nicolas Roca.
Oui Charlotte, l'opération d'expulsion de masse la plus importante de l'histoire est en cours, a annoncé Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Ces mots désignent les opérations menées par la police anti-immigration, notamment dans de nombreuses villes dites sanctuaires, des bastions démocrates comme Boston, Atlanta ou San Francisco. À Newark, en banlieue de New York, le maire a dénoncé une descente effectuée sans mandat. L'édile de Chicago, Brandon Johnson, a lui clairement indiqué que la police locale n'appliquerait pas les ordres de la police fédérale. Sébastien Natrol, journaliste spécialiste de la justice américaine.
C'est ce qu'on peut appeler schématiquement la séparation des pouvoirs verticales, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, lui, peut agir dans le sens qu'il désire, mais les États fédérés, eux, peuvent aussi aller à l'encontre de cela. Donc les États fédérés pourraient, eux, tout simplement refuser de prêter main forte à l'État fédéral pour lui faire comprendre que l'objectif qu'il s'est donné, il n'a qu'à l'atteindre lui-même.
Donald Trump a déjà étendu les pouvoirs de sa force fédérale anti-immigration, permettant des arrestations dans des lieux sensibles comme les églises ou les écoles. Une note du département de la sécurité intérieure rendue publique par le New York Times suggère que l'administration Trump ne cible pas seulement ce qu'elle appelle des criminels clandestins. Elle invite sa police anti-immigration à s'intéresser aux cas de migrants bénéficiant d'un titre de séjour temporaire ou bien dans l'attente d'une décision de justice.
Et j'ajoute sur la remise en cause du droit du sol ordonné par décret par Donald Trump, ce principe qui permet à un enfant né aux États-Unis d'être automatiquement citoyen américain. Eh bien, un juge de Seattle a suspendu hier cet ordre présidentiel manifestement anticonstitutionnel, selon le magistrat.
Autre grande décision du président américain dans la foulée de son investiture, le démantèlement des politiques de promotion de la diversité dans les agences fédérales.
Ce sont des programmes de discrimination positive envers les personnes noires, latino, LGBT+, ou encore les personnes handicapées. Plusieurs grandes entreprises américaines avaient anticipé et avaient déjà lancé le mouvement pour suspendre ces programmes. Mais d'autres groupes ne veulent pas revenir en arrière, hein, Justine Fontaine. C'est le cas des supermarchés Costco.
Oui, c'est la troisième chaîne de supermarchés du pays, 200 000 salariés aux États-Unis, et ses actionnaires ont voté hier à 98% pour garder en l'état la politique de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Un vote conforme à la volonté de la direction, qui faisait face à une motion déposée par un groupe de pression conservateur. D'après ce groupe, les mesures pro-diversité sont un risque financier pour Costco, car des hommes blancs pourraient par exemple attaquer en justice l'entreprise pour discrimination. Le groupe de pression s'appuie principalement sur une décision de la Cour suprême de 2023 qui a remis en cause la discrimination positive à l'université. Un retour de bâton conservateur au détriment des acquis du mouvement des droits civiques et plus récemment du mouvement Black Lives Matter en 2020. De nombreuses grandes entreprises comme Walmart, Amazon, Boeing ou encore Meta ont ainsi annoncé ces derniers mois qu'elles abandonnaient tout ou partie de leur politique de diversité. Dans ce paysage, Costco fait donc bien figure d'exception avec les dirigeants d'Apple qui refusent eux aussi pour l'instant de revenir sur leur politique d'inclusion.
Et j'ajoute toujours sur les États-Unis que le président Trump est attendu aujourd'hui en Caroline du Nord et en Californie pour son premier déplacement. Ce sont deux États éprouvés par des catastrophes naturelles.
Un recours inutile ou disproportionné à la force. Les Nations Unies dénoncent l'usage de méthodes de guerre par Israël en Cisjordanie.
Le territoire occupé où l'État hébreu a lancé depuis mardi une vaste opération. Officiellement, c'est pour lutter contre les groupes terroristes. 12 personnes ont été tuées. La Cisjordanie est bouclée. Des centaines de Palestiniens ont dû quitter le camp de réfugiés de Jénine. Jénine, considéré comme l'un des bastions des groupes palestiniens qui luttent contre l'occupation. À Jérusalem, Sami Bourlifa.
La stratégie militaire des forces d'occupation israéliennes dans le camp de Jénine est toujours la même. Encercler la zone, envoyer des bulldozers. Leur mission, détruire les routes, les trottoirs, les canalisations, afin de s'assurer qu'aucun engin explosif n'y est dissimulé, explique l'armée. Et ainsi ouvrir la voie aux forces spéciales, appuyées par une couverture aérienne, des frappes de drones et d'hélicoptères. Le tout en zone urbaine dense. La population a reçu l'ordre d'évacuer, raconte Ali, habitant de Jénine.
Ils nous ont donné jusqu'à jeudi soir, 17h. Pour quitter le camp avant qu'ils ne le bombardent. C'est un déplacement forcé. Les gens sont éparpillés dans la région. Certains ont trouvé refuge dans les hôpitaux, d'autres chez des proches. On se dit, ils en ont fini avec Gaza et désormais c'est notre tour.
Dans la confusion de la fuite, le cousin d'Ali a été blessé par balle.
Mon cousin était en train de partir en voiture avec sa mère et ses neveux lorsque l'armée israélienne a commencé à tirer. Mon cousin s'est arrêté et avec le reste de la famille, ils ont essayé de trouver refuge dans la première maison qu'ils ont aperçue. C'est là qu'il a été atteint par un tir.
Le jeune homme a été soigné, son état est stable. Mais l'offensive israélienne pourrait durer encore plusieurs jours, annonce l'armée. Israël affirme lutter contre le terrorisme. Le monde à l'envers, s'insurge Ali. L'armée israélienne occupe illégalement la Palestine, rappelle cet habitant de Jénine. Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Et sur l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, il prévoit cet accord une deuxième série de libérations. Demain, samedi, 4 otages israéliens sont concernés en échange de détenus palestiniens. Le Hamas a dit qu'il allait publier la liste des otages concernés donc aujourd'hui. C'est la première fois qu'il se rend en Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad. Le chef de la diplomatie saoudienne est arrivé là à Damas pour rencontrer les nouvelles autorités et pour discuter notamment de l'aide du royaume pour la reconstruction du pays. La Turquie propose sa médiation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, alors que le secrétaire général de l'ONU se dit alarmé par la reprise des combats dans l'est de la RDC par l'offensive rebelle du mouvement du M23, notamment autour de la ville de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Selon l'ONU, les violences dans l'est de la RDC ont fait plus de 400 000 déplacés depuis début janvier. On y reviendra dans Afrique Midi. Midi et demi, temps universel.
61 ans, dont 17 passés dans le couloir de la mort en Indonésie. Serge Atlaoui doit être rapatrié en France au début du mois de février.
Oui, précisément le 4 février, selon un accord signé tout à l'heure entre Paris et Jakarta. Serge Atlaoui, condamné à la peine capitale en 2007 pour trafic de drogue, cet artisan soudeur avait été arrêté dans une usine qui produisait de l'ecstasy et lui a toujours affirmé qu'il avait simplement installé des machines industrielles dans ce qu'il pensait être une usine d'acrylique. L'Indonésie a donc accepté le transfert pour des raisons humanitaires. C'est évidemment le soulagement pour Maître Richard Cedillo, l'un de ses avocats.
C'est évidemment un immense soulagement pour lui, pour sa famille, pour tous ceux qu'il aime. Et puis pour moi aussi, je dois dire, je suis extrêmement heureux de ce résultat qu'on a tellement attendu et pour lequel on s'est tellement battu. Lorsqu'on est avocat et qu'on se dit qu'on est aussi responsable de la vie de celui qui nous a confié sa défense, le moment où on sait que définitivement il va sortir du couloir de la mort, c'est la vie qui l'emporte sur la mort et c'est donc un moment particulièrement émouvant et important. C'est un gouffre qui s'ouvre devant lui, si vous voulez. Enfin, l'espoir de la liberté, l'espoir de pouvoir à nouveau serrer ce qu'il aime dans ses bras, de pouvoir retrouver son pays, c'est quelque chose d'absolument prodigieux qui va complètement changer sa vie.
Maître Richard Cedillo est donc avocat de Serge Atlaoui, joint par Carlota Morteo. Pour lui, c'est l'heure du jugement en Martinique, décision attendue là incessamment pour celui qu'on surnomme le R, Rodrigue Petitot, leader du mouvement contre la vie chère, accusé de menaces et actes d'intimidation à l'encontre du préfet de la Martinique. Le parquet avait réclamé la fermeté, 30 mois d'emprisonnement, dont minimum 15 fermes. On attend donc la décision du tribunal.
Des réactions en chaîne après le vote de plusieurs députés européens contre une résolution réclamant la libération de Boualem Sansal.
L'écrivain franco-algérien arrêté en Algérie mi-novembre. Alors cette résolution, elle a été adoptée hier au Parlement européen, mais pas validée par tout le monde. Victorien Villaume, certains ont voté contre et il s'agit entre autres d'eurodéputés étiquetés la France insoumise qui appartiennent donc à la gauche radicale.
Oui, c'est ça. On trouve par exemple Rima Hassan, hein, Charlotte, qui a voté contre, mais aussi Manon Aubry qui pour sa part fait partie des abstentionnistes et ça n'a pas manqué de provoquer un tollé. À droite, par exemple, avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dénonce un positionnement politiquement scandaleux. Mais également à gauche, c'est une honte. Ce texte ne contenait rien qui soit contestable, estime pour sa part l'eurodéputé Raphaël Glucksmann.
Et LFI a répliqué, évidemment.
Oui, Manon Aubry nous explique qu'elle a toujours été pour la libération de Boualem Sansal, mais que cette résolution est problématique. D'abord, car ce sont des responsables politiques d'extrême droite qui en sont à l'origine et qu'ils utilisent ce texte pour attiser les tensions avec l'Algérie. Deuxièmement, cette résolution menace de ne pas renouveler l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie. Et pour l'élu insoumise, eh bien, cela revient à appeler à une confrontation avec Alger. Alors, un député européen écologiste que nous avons contacté reconnaît en effet une instrumentalisation par l'extrême droite de Boualem Sansal, mais pour lui, l'utilité de la résolution européenne est le seul sujet qui vaille, Charlotte, c'est la libération d'un homme injustement détenu par le régime algérien.
Et malade, selon le président Macron qui avait également réclamé sa libération. Classe fermée, vacances avancées, horaires décalés. L'an dernier dans le monde, la scolarité d'un enfant sur sept a été perturbée par des événements climatiques selon l'UNICEF. Cela représente 250 millions d'enfants. Ces phénomènes qui sont pêle-mêle des vagues de chaleur, des tempêtes ou des inondations. Et dans le cas de la Thaïlande, un pic de pollution en ce moment à Bangkok. Plus de 350 écoles ont dû fermer, Simon Rosé, face à ce phénomène qui dure depuis maintenant plusieurs jours.
Et oui, un nuage gris, dense, qui prend à la gorge, des habitants masques sur le nez qui déclarent avoir du mal à respirer. C'est un épisode de pollution particulièrement intense qui s'est abattu sur Bangkok, favorisé par les températures fraîches et l'absence de vent. Le smog, comme on l'appelle, est plaqué au sol. Il ne se dissipe pas depuis plusieurs jours et la concentration en particules fines ne cesse d'augmenter. Elle est plus que 7 fois supérieure aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé. Des particules nocives, les plus nocives même pour la santé, puisqu'elles sont capables de se diffuser directement dans le sang. Particulièrement vulnérables, des milliers d'enfants sont ainsi priés de rester chez eux. Près de 80% des écoles publiques de la ville sont fermées, alors que les autorités ont également rendu gratuits les transports publics pour tenter d'atténuer cet épisode de pollution. Les émissions des voitures en sont en effet les principales responsables, ainsi que les brûlis agricoles en périphérie de la capitale thaïlandaise. Bangkok, qui est aujourd'hui la 7e ville la plus polluée du monde, dans un triste classement où les métropoles asiatiques se taillent la part du lion. C'est à Dhaka, la capitale du Bangladesh, qu'on trouve aujourd'hui l'air le plus pollué.
Et Simon Rosé, vous le disiez, la plupart des transports en commun sont donc gratuits à Bangkok, notamment le Skytrain, le métro aérien, et cela pendant une semaine.
Et on va revenir dans quelques minutes sur les conséquences de la pollution et plus généralement du dérèglement climatique et des événements extrêmes avec la directrice de plaidoyer de l'UNICEF en France. En attendant, on va parler culture et du film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, encensé par Hollywood, mais étrillé au Mexique.
C'est dans ce pays que se déroule l'histoire du film, cette comédie musicale sur un narcotrafiquant mexicain transgenre. Mais de nombreuses voix mexicaines ont dénoncé le film, cliché, grossier, voire qui manque de respect. Ce sont quelques-unes des critiques. Emilia Pérez, qui est sortie hier dans les salles mexicaines. Reportage Marine Lebeg.
Il est 22h, les lumières se rallument dans ce cinéma du centre de Mexico. Seulement une dizaine de personnes sortent et la salle est déjà vide. Emilia Pérez n'a pas attiré foule pour sa sortie officielle au Mexique et les quelques spectateurs ne ressortent pas très convaincus, comme Alberto, 22 ans.
Pour commencer, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il n'y a quasiment que des acteurs étrangers pour jouer dans un film mexicain. Ils auraient dû prendre des acteurs mexicains. Et aussi, le film est rempli de stéréotypes. Par exemple, il y a une musique appelée « Vieux fer » qui est utilisée dans le film pour aborder des sujets sensibles. Mais ici, au Mexique, cette musique est utilisée pour annoncer la collecte des poubelles. Il n'y a aucune logique.
Stéréotypé, certes, mais n'en cache pas moins un fond de vérité, souligne Oscar, un Espagnol qui vit au Mexique depuis 12 ans.
Toute cette partie polémique qui s'est créée au Mexique, comme quoi le film ne représente pas le pays, qu'il serait même offensif, en sang, je ne suis pas d'accord. Je pense que le film retrace la réalité et c'est plutôt positif d'y apporter de la visibilité.
Polémique ou non, Emilia Pérez ne semble pas partir d'un très bon pied sur le sol mexicain. Et même s'il est en tête, cela pourrait bien affecter le film dans sa course aux Oscars. Réponse lors de la cérémonie en mars prochain. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
À Mexico, il est 6h15. Merci Charlotte
Hidrac. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous, on va parler de l'actualité sportive tout de suite. Bonjour Eric Mamrut.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
De tennis pour commencer, Yannick Sinner contre Alexander Zverev, ce sera l'affiche dimanche de la finale de l'Open d'Australie.
L'Italien défendra bien son titre à Melbourne. Yannick Sinner vient de se qualifier en dominant 3 manches l'Américain Ben Shelton qui disputait sa 2e demi-finale en majeur. Victoire 7-6-6-2 pour le numéro 1 mondial, sa 20e consécutive. Il défiera donc en finale son dauphin au classement, Alexander Zverev, qui a bénéficié de l'abandon de Novak Djokovic dans la première demi-finale. Le Serbe blessé aux adducteurs mardi face à Carlos Alcaraz. Il a jeté l'éponge juste après avoir perdu la première manche 7-6. L'Allemand de 27 ans tentera ainsi dimanche de remporter un tournoi du Grand Chelem. Ceci pour la première fois de sa carrière après ses précédents échecs à l'US Open en 2020. Et l'an dernier à Roland-Garros, de quoi être joyeux, même si évidemment, après cette qualification tronquée, Alexander Zverev était plutôt modeste.
J'ai énormément de respect pour lui. Je l'admire beaucoup, vous savez. Je crois qu'on a joué un très bon premier set. Après, il ne pouvait pas continuer. C'est sûr, j'aurais préféré gagner autrement, mais c'est comme ça. Me voilà en finale. C'est une nouvelle opportunité pour moi de gagner enfin une finale de Grand Chelem. J'ai hâte qu'on soit dimanche. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour me retrouver là, en finale. Je peux dire que oui, je suis prêt.
Yannick Sinner, Alexander Zverev, ce sera dimanche à 8h30, temps universel. Et puis demain, place à la finale dames. Face à face, la double tenante du titre, Arina Sabalenka, la Biélorusse, et l'Américaine Madison Keys, qui disputera 8 ans après la deuxième finale de Grand Chelem de sa carrière.
En football, Rudy Garcia devient le nouveau sélectionneur de la Belgique.
Le Français de 60 ans remplace l'Italo-Allemand Domenico Tedesco, limogé la semaine dernière. Il est vrai que les Diables Rouges sont bien transparents ces derniers mois, seulement 8e de finaliste du dernier Euro est plutôt médiocre en Ligue des Nations. Rudy Garcia sera chargé de les redynamiser, de les rediaboliser, je ne sais pas si on dit ça, pour les qualifier pour la Coupe du Monde de l'an prochain. L'ancien entraîneur champion de France avec Lille en 2011, qui retrouve ainsi un poste plus d'un an après la fin de sa collaboration avec Naples. Son homologue allemand Julian Nagelsmann, lui, voit son bail avec la Mannschaft prolongé jusqu'à l'Euro 2028. L'ancien technicien du Bayern Munich avait pris en main la sélection d'Allemagne en septembre 2023.
En France, coup d'envoi ce soir de la 19e journée de Ligue 1.
Avec un match avancé entre deux membres du bas de tableau, Auxerre 11e reçoit le 16e Saint-Etienne, actuellement barragiste. Les Bourguignons n'ont plus gagné depuis 7 matchs. Dans le même temps, les Verts n'en ont remporté qu'un seul. Coup d'envoi au stade de la Baie des Champs à 19h45, temps universel. Et puis hier se disputait la 7e journée de la phase de poule de la Ligue Europa. Lyon est allé faire match nul, 0 partout sur le terrain stambouliote de Fenerbahçe. L'OL, 5e du classement, verra au minimum les barrages. En revanche, c'est terminé pour Nice. Désormais avant-dernier après sa défaite en Suède contre Elfsborg 1-0.
Hier encore, le basketteur français Victor Wembanyama a enflammé l'aréna de Bercy.
Il a fait le show, une soirée de rêve pour Wemby qui a porté son équipe des Spurs de San Antonio vers une victoire éclatante contre les Indiana Pacers. 140-110 dans le premier des 2 matchs de NBA délocalisés à Paris. Le prodige français auteur d'une prestation de haut vol avec 30 points, 11 rebonds, 6 passes, 5 contres et des actions dont il a le secret. Un vrai match référence, comme il l'a reconnu lui-même au micro de Victor Missistrano. Victor Wembanyama.
Celui-là, je le classe forcément dans un des matchs qui me tient le plus à cœur, forcément. Et en termes de performance pure, c'est un top 5. C'est parfait comme soirée parce qu'il y a la victoire et la manière. Donc voilà, même si on profite ce soir, mais on se reconcentre dès demain pour le prochain.
Et demain, pour l'acte 2 de ce duel entre les Spurs et les Pacers, toujours à l'Arena de Bercy.
L'actualité sportive, merci Eric Mamrut. À suivre aussi sur internet rfi.fr.
RFI. Le Monde à midi.
plus de 350 écoles fermées aujourd'hui encore à Bangkok, conséquence de la pollution extrême qui règne dans la capitale thaïlandaise. Aujourd'hui, la concentration en nanoparticules est plus de 7 fois supérieure au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ça n'est pas la première fois et on se souvient aussi qu'en Inde, par exemple, près de 2 millions d'élèves ou d'étudiants de New Delhi avaient été privés de cours en novembre dernier pour la même raison. Bonjour Lucille Grosjean. Lucille Grosjean, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, je vous entends très bien, moi.
Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du plaidoyer de l'UNICEF en France. Je parlais de la situation à Bangkok, situation qu'on a vue se reproduire aussi dans plusieurs grandes villes d'Asie ces derniers mois. C'est ça aussi, la pollution, et on n'y pense pas toujours, c'est des effets très concrets sur la scolarisation.
Tout à fait, c'est valable pour la pollution de l'air qui est plus liée à des éléments environnementaux, mais effectivement, c'est aussi tous les impacts des changements climatiques avec ces vagues de chaleur extrêmes qui se multiplient, mais aussi ça peut être des cyclones, des tempêtes, des inondations, etc., qui ont un impact de plus en plus grand sur la scolarisation parce que ces événements climatiques se multiplient.
Pourquoi est-ce que les enfants sont plus sensibles que les autres ?
Parce que leur organisme et leur métabolisme est différent de celui des adultes, notamment en termes de système de transpiration et de régulation de la température du corps, parce que c'est un corps plus petit aussi, tout simplement. Les enfants ne réagissent pas de la même manière, notamment à ces vagues d'extrême chaleur, et sont beaucoup plus à risque de faire des malaises, d'avoir des maladies même cardiaques liées à ça, des arrêts cardiaques pas liés à ça. Donc effectivement, les enfants sont plus sensibles à ces, notamment aux vagues de chaleur.
Votre organisation, l'UNICEF, publie donc aujourd'hui un rapport sur cette question, justement sur les effets du dérèglement climatique sur les enfants. Vous nous apprenez que 234 millions d'entre eux sont concernés dans le monde. Quelles sont les perspectives pour les prochaines années ?
Alors déjà, effectivement, ça représente ce chiffre, hein, représente déjà aujourd'hui quasiment un enfant sur sept à l'heure actuelle. Et on sait, parce que les changements climatiques ne sont pas en voie d'amélioration, que ça va augmenter dans les années à venir. On sait par exemple que d'ici 2050, il y aura 8 fois plus d'événements de chaleur extrême, par exemple, que comparativement aux années 2000, et 3 fois plus de cyclones, tempêtes, etc. Donc ces événements climatiques extrêmes vont se multiplier, donc ces impacts vont également se multiplier pour les enfants et sur la scolarisation dans les années à venir, d'où l'urgence et l'importance de travailler au plus vite sur l'adaptation des salles de classe, l'adaptation des écoles, de bien sûr continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter au long cours ces impacts. Donc c'est effectivement très important d'agir là-dessus parce que ça ne va pas s'améliorer.
Ça concerne toutes les régions du monde ?
Ça concerne toutes les régions du monde, effectivement, avec les premières régions touchées, celles les plus impactées, qui sont plutôt du côté de l'Asie du Sud, puis du Pacifique et enfin de l'Amérique latine. Mais en tout cas, le rapport de l'UNICEF vraiment prend en compte des données de 85 pays répartis un peu partout dans le monde. Donc tout le monde et tous les enfants sont victimes de ce phénomène.
Et le risque, dites-vous dans votre rapport, c'est que ces interruptions dans la scolarité à cause de ces phénomènes extrêmes et du dérèglement climatique n'entraînent en fait une déscolarisation totale.
Oui, déjà ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si toutes les régions du monde sont touchées, là où les trois quarts des élèves touchés se situent dans des pays plutôt à faible revenu ou revenu intermédiaire, et du coup, quand on voit aussi qu'il y a une fermeture prolonger des écoles, des classes, il y a une tendance qu'on voit hein, d'un vrai processus de déscolarisation qui se met en place avec du coup des jeunes notamment qui du coup vont aller chercher un travail, où on voit des phénomènes de mariage précoce qui se mettent en place, etc.
Donc effectivement, oui, c'est particulièrement vrai pour les filles, cette déscolarisation. On avait vu par exemple l'année dernière le nombre de mariages forcés augmenté au Pakistan après une mousson hors norme. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous observez aussi ailleurs ?
Tout à fait. C'est pas uniquement là. Effectivement, c'est vraiment une tendance qu'on voit, encore une fois, de ces événements climatiques qui, en fait, sont un déclencheur, s'ils durent, notamment, et si on n'arrive pas à trouver un système assez rapidement pour réouvrir les classes et tout de suite reprendre l'école, qui mène à plein d'autres conséquences plus larges, et notamment sur le mariage précoce ou sur le travail des enfants.
Ça, c'est pour le constat qui est quand même très sombre. Est-ce que, selon vous, les gouvernements ont conscience de ces risques ?
Alors bien sûr, la prise de conscience, elle augmente, hein, mais on n'est clairement pas encore à l'échelle, et notamment pour le fait de prendre en compte dans toute la construction d'établissements scolaires aujourd'hui, de faire en sorte qu'ils soient adaptés et résilients face aux risques climatiques de la région dans laquelle ils se situent. Le fait qu'il faut aussi avancer sur l'éducation au changement climatique, et notamment auprès des enfants, pour mieux connaître les risques, et notamment par exemple ce que peut causer une vague de chaleur et comment s'en prémunir. Ces financements, l'éducation est pas forcément vraiment reconnue comme étant un des secteurs très impactés par les changements climatiques, et c'est ça qu'on aimerait faire changer, notamment à travers ce rapport. Donc voilà, toutes les implications que signifie le changement climatique sont pas encore pris en compte à l'échelle aujourd'hui. Il y a un vrai travail à faire, notamment d'adaptation des établissements scolaires.
Est-ce qu'il y a des exemples à suivre qui seraient déjà mis en place?
Alors l'UNICEF, dans beaucoup de pays dans lesquels nous travaillons, on met en place ce type de programme. Par exemple, j'ai l'exemple qui me vient en tête du Mozambique, qui connaît très, très régulièrement des passages de cyclones. Et donc l'UNICEF a soutenu là-bas la construction de plus de 1000 classes adaptées et résilientes au changement climatique dans plus de 230 écoles du pays. C'est le genre de choses, de mettre des panneaux solaires, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Le fait d'avoir des systèmes d'adduction d'eau qui soient adaptés, notamment dans des zones de sécheresse, qui vont aller chercher de l'eau plus profondément pour qu'il n'y ait pas de coupure d'eau dans les écoles. Là, c'est toute une série de choses qui sont tout à fait possibles de faire pour faire face et s'adapter à ces changements climatiques.
Et permettre aux enfants de continuer d'aller à l'école. Je vous remercie beaucoup, Lucile Grosjean, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du plaidoyer de l'UNICEF en France.
Merci à vous.
Reportage maintenant en Syrie, où l'on vit au rythme des coupures de courant. Pour beaucoup, l'électricité n'est disponible que 2 heures par jour. C'est l'une des conséquences des 13 années de guerre civile. Et aujourd'hui, c'est une priorité pour les nouvelles autorités. Manon Chaplin.
La lumière vacille, tremble, puis s'éteint. Sous l'unique ampoule de cette pièce, le salon de la famille Alomre, ils sont une quinzaine réunis autour d'un poêle. Fatima, l'aînée, explique 21 heures passées et ici, ils n'ont plus d'électricité. Sur le toit, un panneau solaire est installé. 4 ans d'économie pour se l'acheter. Pas suffisant pour avoir du courant toute la journée.
Étudier et faire la lessive sont les deux choses les plus compliquées. Les coupures de courant sont constantes. Ici, c'est aussi très difficile d'avoir de l'eau car l'électricité n'est pas assez puissante pour faire fonctionner la pompe.
Une fois l'obscurité, chacun sort de sa poche un briquet au bout duquel une petite lumière est intégrée. C'est la seule chose qu'ils ont pour s'éclairer.
Nous l'utilisons uniquement pour que la famille puisse se réunir et se voir avec un éclairage adéquat. Nous sommes habitués, c'est comme ça depuis 2014 ou 2015, depuis le début de la guerre ici.
Dans ce quartier le plus pauvre d'Alep, toutes les familles sont concernées. Karma Jasmati, c'est son nom, a longtemps été le théâtre de violents combats entre les rebelles et l'armée de Bachar al-Assad. La centrale électrique d'Alep, l'une des plus grosses du pays, a été endommagée. Seules 2 turbines sur 5 fonctionnent. Sur les parois, des impacts de shrapnel.
C'est à cause des bombardements. La station a été bombardée.
Emad Abou Ali, le manager, nous fait la visite, raconte. Cette centrale a été tenue par l'État islamique entre 2013 et 2016 avant d'être reprise par le régime.
La station a été complètement vandalisée et puis saboté par les deux camps. L'État islamique l'a d'abord saboté en partant, puis le régime a recommencé en arrivant. Regardez les transformateurs, regardez l'état de cette station. Tout a été volé, le cuivre, les câbles, tout.
L'objectif du nouveau gouvernement de Damas est de faire passer la production d'électricité de 1200 à 7000 MW. La compagnie nationale d'électricité a annoncé début janvier que le Qatar et la Turquie allaient envoyer 2 navires pour produire de l'électricité. Mahmoud El Ahmad, directeur général de la compagnie dans la région d'Alep.
Notre principal objectif aujourd'hui est que la situation s'améliore, afin que l'électricité soit disponible non plus 2 heures, mais 8 par jour. La deuxième étape consistera à réhabiliter les centrales électriques afin d'augmenter la quantité d'énergie disponible.
Les sanctions imposées au régime de Bachar al-Assad ont longtemps compliqué l'importation de pétrole. Pour que le courant reparte, le nouveau pouvoir en réclame la levée. D'après Mahmoud El Ahmad, de premiers accords sont en cours de négociation.
Le gaz sera acheminé par un gazoduc appelé gazoduc euro-arabe qui traversera la Jordanie. Le carburant sera, lui, acheminé par voie maritime depuis des pays pétrolier.
Pour l'heure, les plus importants champs pétroliers et gaziers du pays sont situés dans la région autonome kurde et échappent au contrôle du pouvoir central. L'électricité vitale pour la reconstruction du pays après 13 années de guerre sera un enjeu décisif des négociations avec les Kurdes dans les prochaines semaines. Manon Chaplin, de retour d'Alep, RFI.
Un reportage à retrouver comme toutes nos informations sur internet, rfi.fr.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Alors n'hésitez plus à participer à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Plus que quelques jours pour candidater sur App Afrique. appafrique.rfi.fr.